Chapitre 3. Responsabilité. Althea le regardait s'en aller. Elle ne s'était pas jointe à sa mère pour le raccompagner à la porte. Elle s'était précipitée dans une chambre de bonne au dernier étage de la maison. Elle n'avait pas éclairé la pièce poussiéreuse et évitait même de trop se pencher par la fenêtre, de peur que Brachen ne se retourne et la surprenne. Le clair de lune éteignait les couleurs voyantes de ses vêtements. Il marchait lentement, sans un regard en arrière, d'une démarche aussi chaloupée que s'il était sur un pont. Heureusement qu'elle était entrée dans le cabinet en se battant avec Malta. Personne n'avait prêté attention à ses joues rouges et à son souffle court. Brachen lui-même n'avait sans doute pas remarqué sa réaction de panique en le voyant. Devant l'expression accablée de Kefria et de sa mère, son cœur avait failli s'arrêter. Durant quelques terribles secondes, elle avait cru qu'il était venu voir sa mère pour tout avouer et proposer de réparer en l'épousant. Bien qu'ébranlée par les nouvelles, elle avait été secrètement soulagée de n'avoir pas à avouer publiquement ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle avait fait. Elle l'acceptait maintenant. Les paroles d'Ambre l'avaient forcée à regarder les choses en face, voilà des semaines. Elle avait presque honte à présent d'avoir cherché à masquer la vérité sous des excuses. Ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait ensemble. Si elle voulait se respecter en tant que femme et adulte, elle ne pouvait prétendre le contraire. Si elle avait prétendu le contraire, avait-elle conclu à juste titre, c'était parce qu'elle n'avait pas voulu qu'on la blâmât d'avoir agi de façon aussi irresponsable. S'il l'avait vraiment forcée à coucher avec lui, alors la souffrance qu'elle ressentait depuis aurait été légitime. Elle aurait pu être la femme flouée, l'innocente séduite, abandonnée par un marin sans cœur. Mais ses rôles leur faisaient injure à tous deux. Elle avait été incapable de rencontrer son regard ce soir, et incapable aussi de détacher ses yeux de lui. Il lui avait manqué. Les années de camaraderie à bord pesaient plus lourd que leur séparation brutale. Elle lui avait jeté des coups d'œil furtifs, enregistrant son image en elle comme pour assouvir une sorte de faim. Les nouvelles consternantes dont il était porteur lui fendaient le cœur, mais ses yeux l'avaient trahi. Elle avait scruté l'éclat des prunelles sombres, suivi le mouvement des muscles qui saillaient sous la chemise de soie. Elle avait remarqué l'irritation due à la sindine au coin de sa bouche. Il n'avait donc pas renoncé à la drogue. Son accoutrement de flibustier l'avait horrifiée. Elle était blessée et déçue qu'il soit devenu pirate. Certes, ses vêtements lui allaient beaucoup mieux que la tenue sobre d'un fils de marchand. Elle réprouvait tout en lui et pourtant, en le voyant, elle avait senti son cœur s'emballer. « Brachen, » dit-elle dans le noir d'une voix désespérée. Elle secoua la tête en le regardant s'éloigner. Elle avait des regrets. C'était tout. Elle regrettait que leur étreinte eût détruit leur agréable camaraderie. Elle regrettait de s'être laissée aller à cet acte inconvenant avec le partenaire qui ne convenait pas. Elle regrettait qu'il eût baissé les bras et ne fût pas devenu l'homme qu'imaginait son père par manque de jugement et faiblesse de caractère. C'était tout. Des regrets. Qu'est-ce qu'il avait ramené à Terrilville? Il n'avait pas fait tout ce chemin simplement pour leur annoncer la capture de Vivacia. À la pensée de son navire, son cœur se serra davantage. Le laisser aux mains de Kyle avait déjà été suffisamment dur. Maintenant, il se trouvait aux mains d'un pirate capable de meurtre. La vive nef en serait marquée. C'était inévitable. Si elle récupérait jamais Vivacia, celle-ci serait très différente du navire ardent et fougueux qui avait quitté Terrilville voilà plus d'un an. Aussi différente que je le suis moi-même, dit-elle à voix haute dans la nuit. Aussi différente que lui. Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il soit happé par les ténèbres. Minuit était bien passé avant que Malta n'ait pu se glisser hors de la maison. Elles avaient dîné de reste à la cuisine comme des servantes. Brachen leur avait tenu compagnie. Quand Rack était rentré de sa journée de congé en ville, la famille Ebrachen avait regagné le cabinet de travail de son grand-père pour poursuivre leur discussion. Même Selden était de la partie, aux grandes dames de Malta. Il n'avait fait que poser des questions stupides, ce qui n'aurait pas été si pénible si les autres ne s'étaient ingéniés à y répondre de façon compréhensible pour lui, tout en répétant qu'il ne fallait pas l'effrayer. Il avait fini par s'endormir sur les pierres du foyer. Brachen avait proposé de le porter jusqu'à son lit, ce que sa mère avait accepté pour ne pas réveiller ce petit microbe. Malta resserra sa cape autour des épaules. C'était une belle nuit d'été, mais la menthe sombre lui servait de camouflage et la protégeait de la rosée. Ses mules et l'ourlet de sa robe étaient déjà trempés. Il faisait beaucoup plus noir dehors qu'elle ne s'y attendait. L'allée de gravier blanc qui menait au chêne et au belvédère reflétait la clarté de la lune et guidait ses pas. Par endroits, l'herbe débordait sur l'allée. Des feuilles humides, qu'on n'avait pas ramassées depuis l'automne dernier, collaient à ses semelles. Elle s'efforça de ne pas penser aux limaces et aux vers qu'elle écrasait en marchant. Elle entendit un bruissement dans le taillis à sa droite et s'arrêta, le souffle coupé. Quelque chose filait entre les broussailles. Elle s'immobilisa et tendit l'oreille. Il y avait longtemps de cela, on avait aperçu des félins de montagne aux environs de Terrilleville. On disait qu'ils enlevaient le bétail et même des enfants. Elle eut envie de battre en retraite dans la maison, mais elle devait être courageuse. Il ne s'agissait pas d'une gaminerie ni d'une mise à l'épreuve de sa volonté. Ce qu'elle faisait maintenant, elle le faisait par amour pour son père. Elle était certaine qu'il comprendrait. Elle avait trouvé très ironique que tante Althea la supplia de s'unir aux autres membres de la famille pour récupérer le bateau et ramener son père. Même sa grand-mère avait bien joué la comédie avec son baiser visqueux. La vérité, c'était qu'elle ne croyait pas que Malta puisse leur être d'aucune aide, sinon en se tenant tranquille. Mais c'était tout le contraire. Alors que mère pleurait dans sa chambre et faisait des libations de vin chaud à ça, que tante Althea et sa grand-mère étaient couchées sans dormir, en pensant à ce qu'on pourrait vendre pour se procurer de l'argent, Malta était la seule à agir. Elle était la seule à comprendre qu'elle pouvait rallier des soutiens. Sa résolution s'affermit. Elle ferait tout ce qu'il faudrait pour ramener son père sain et sauf à la maison. Et alors, elle veillerait à ce qu'il sache qui avait vraiment fait des sacrifices pour lui. Qui a dit que les femmes n'ont pas assez de courage et d'audace pour venir au secours de ceux qu'elles aiment? Fortifiée par cette idée, elle reprit son chemin. Une mystérieuse lueur à travers le treillage de rose la fit frissonner. Une douce lumière jaune clignotait et vacillait. L'espace d'une seconde, toutes les histoires terrifiantes qu'elle avait entendues sur le désert des pluies lui revinrent. Rain la faisait-il surveiller par quelqu'un ou quelque chose qui croirait à la trahison? Elle allait se retourner quand une brise légère lui apporta l'odeur d'une chandelle de cire et le parfum de jasmin que Dilo avait adopté depuis peu. Elle se faufila jusqu'au chêne. Dans l'ombre épaisse, elle distingua la source de lumière. Une clarté jaune brillait doucement à travers les lattes du vieux belvédère, découpant les feuilles du lierre qui tapissaient la structure. L'endroit paraissait magique, romanesque, mystérieux. Serwin l'attendait. Il avait allumé une bougie pour la guider. Le cœur de Malta bondit et se mit à battre plus fort. C'était parfait. Une histoire sentimentale de ménestrel dont elle était l'héroïne. La belle jeune femme injustement traitée par le destin, par sa famille, le cœur brisé par la captivité de son père. Malgré la dureté dont les siens avaient fait preuve à son égard, elle serait celle qui consentirait l'ultime sacrifice pour les sauver tous. Serwin était le jeune homme venu la délivrer, car son cœur viril brûlait d'amour pour elle. Il ne pouvait agir autrement. Elle s'immobilisa dans la clarté capricieuse de la lune, en savourant le côté dramatique de la situation. Elle avança sans bruit jusqu'au rideau de feuilles. Deux silhouettes attendaient à l'intérieur. Dilo était blotti dans un coin, enveloppé dans sa cape, mais Serwin allait et venait. C'était ce mouvement qui faisait danser la lueur de la bougie. Il avait les mains vides. Elle se renfrogna. Voilà qui n'allait pas du tout. Rain lui aurait au moins apporté des fleurs. Mais peut-être Serwin avait-il un cadeau plus petit pour elle dans sa poche. Elle ne voulut pas se gâcher le moment. Elle s'arrêta pour repousser son capuchon, secouer ses cheveux et les étaler soigneusement sur ses épaules. Elle se passa les dents sur les lèvres pour les rougir, puis entra dans la flaque de lumière. Elle s'avançait, la démarche pleine de dignité, le visage grave. Serwin l'aperçut aussitôt. Elle fit halte à demi dans l'ombre, tourna la tête vers la lumière caressante et ouvrit tout grand les yeux.
« Malta !»
chuchota-t-il d'une voix étouffée par l'émotion contenue. Il vint à sa rencontre. Il allait la soulever dans ses bras. Elle se prépara, mais il s'arrêta devant elle, mit un genou en terre, baissa la tête. Elle ne voyait que ses boucles sombres. Il déclara d'une voix tendue
« Merci d'être venu. Quand mes nuits est passée, tu n'étais toujours pas là et j'ai eu peur que... »
Il étouffa un sanglot.
« J'ai eu peur qu'il n'y ait plus d'espoir. »« Oh, Serwin !»
murmura-t-elle avec chagrin. Du coin de l'œil, elle vit que Dilo s'était faufilé jusqu'à l'ouverture du belvédère et les observait. Elle en fut contrariée. La petite sœur qui les espionnait, ça gâchait tout. Mais elle repoussa cette pensée. « Ne fais pas attention à elle, cela n'a pas d'importance. » Dilo ne pouvait rien dire sans s'attirer elle aussi de sérieux ennuis. Malta avança d'un pas vers Serwin. Elle posa ses mains blanches sur la... passa les doigts dans ses cheveux. Il retint son souffle. Elle lui releva le menton.
« Comment as-tu pu croire que je ne viendrais pas ?»
lui demanda-t-elle doucement. Elle soupira.
« Quels que soient les malheurs qui m'assaillent, quel que soit le danger que je cours... « Je serais venu, tu aurais dû le savoir. »«
J'ai osé espérer, » avoua-t-il. Il leva les yeux vers elle et elle fut stupéfiée. Il ressemblait beaucoup à Brachen, et la comparaison n'était pas à son avantage. Elle l'avait cru viril et mûr. Mais maintenant, après avoir observé Brachen pendant toute la soirée, elle trouva que Serwin avait l'air d'un blanc-bec. Elle en fut contrariée. Sa conquête était moins glorieuse. Il lui prit les mains et se risqua à en baiser les paumes avant de les lâcher.
« Il ne faut pas !» murmura-t-elle. « Tu sais bien que je suis promise à un autre. »«
Je ne le laisserai jamais te prendre à moi » jura-t-il.
« C'est trop tard »
dit-elle en secouant la tête.
« Les nouvelles que ton frère nous a apportées ce soir me l'ont fait comprendre. »
Elle détourna les yeux pour scruter la forêt obscure.
« Je n'ai pas d'autre choix que de subir mon destin. La vie de mon père en dépend. »
Et il se releva d'un bond.
« Que dis-tu ? »
fit-il en laissant échapper un cri étouffé.
« Quelle nouvelle ? Mon frère ? La vie de ton père ? Je ne saisis pas. »
Elle déclara d'une voix remplie de vraies larmes.
« Les pirates ont capturé notre navire. Brachen a eu la bonté de nous prévenir. Nous craignons que mon père et mon frère ne soient déjà morts, mais si ce n'est pas le cas, s'il reste la moindre chance... Oh, Serwin, nous devons absolument réunir l'argent pour la rançon. Oui, mais comment? C'est humiliant à reconnaître, mais tu es au courant de nos difficultés financières. Dès qu'on saura que notre bateau a été pris, nos créanciers vont fondre sur nous comme des requins. »
Elle leva les mains à son visage.
« Je ne sais pas comment on se nourrira et encore moins comment on trouvera de quoi payer. J'ai peur qu'on me marie au plus vite aux marchands du désert des pluies. J'ai beau en souffrir, je sais que c'est mon devoir. Rain est généreux. Il m'aidera à secourir mon père. Et s'il faut pour cela que je l'épouse, cela m'est égal. Tant pis. »
Sa voix s'altéra en prononçant les derniers mots. Elle vacilla, réellement accablée par son cruel destin. Il la prit dans ses bras.
« Pauvre enfant courageuse, peux-tu imaginer que je vais te laisser te marier sans amour, même pour le salut de ton père ?»« Nous n'avons pas le choix, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je m'offrirai à Rain. Il est riche et il peut m'aider. C'est ce à quoi je penserai quand le moment sera venu. peut le satisfaire. »
Elle enfouit son visage dans la chemise de Serwin comme honteuse d'aborder pareil sujet. Il resserra son étreinte.
« Jamais. Ce moment ne viendra jamais, »
assura-t-il en reprenant haleine.
« Je ne prétends pas être aussi riche qu'un habitant du désert des pluies, mais tout ce que je possède, tout ce que je posséderai jamais, je le mets à ta disposition. »
Il l'écarta un peu de lui pour scruter son visage.
« Crois-tu que je pourrais faire moins ?»
Elle haussa les épaules en signe d'impuissance.
« Non, je ne croyais pas, »
avoua-t-elle.
« Ton père est le marchand de la famille. Le pauvre Brachen est bien la preuve que c'est ton père qui commande. Je sais ce que ton cœur t'ordonne, mais en réalité... »
Elle secoua tristement la tête.
« Tu n'as pas encore beaucoup de pouvoir. » « Pauvre Brachen !»
dit-il en reniflant de mépris.
« Mon frère a causé son propre malheur, ne le plains pas. Ce que tu dis pour le reste, c'est vrai, et je ne le nie pas. Je ne peux pas mettre toute la fortune d'Etrel à ta disposition, mais... »« Comme si je te le demandais ? Oh, Serwin, que dois-tu penser de moi ? Que je suis venu ce soir en risquant ma réputation pour te réclamer de l'argent ?»
Elle se détourna dans un envol de cape qui révéla brièvement la chemise de nuit de coton blanc qu'elle portait dessous. Elle perçut le hoquet de surprise de Dilo qui sortit précipitamment du belvédère pour se planter à côté de Malta.
« Tu es presque nu ! Malta, comment peux-tu ?»
Voilà. Si Serwin avait été assez bouché pour ne pas l'avoir remarqué, il savait maintenant. Elle se redressa avec dignité.
« Je n'avais pas le choix. Je n'ai eu qu'une occasion de sortir et je l'ai saisie. Je ne le regrette pas. Serwin a été assez élégant pour ne pas y prêter attention et me faire honte. Mais je n'ai pas décidé de venir ainsi. Tu ne comprends pas que la vie de mon père est en jeu, Dilo ? L'heure est exceptionnelle et les règles ordinaires ne s'appliquent pas. »
Elle posa les mains sur son cœur d'un air implorant. Elle observa du coin de l'œil la réaction de Serwin. Il la contemplait avec une admiration horrifiée. Il promenait le regard sur son corps comme s'il avait pu voir à travers sa cape.
« Dilo, » dit-il brusquement, « cela n'a pas d'importance. Ne fais pas l'enfant. Je t'en prie, laisse-moi parler avec Malta tranquillement. » « Serwin !»
protesta Dilo, outré. Il l'avait fâché en la traitant d'enfant. Malta n'avait pas besoin de cela. Une Dilo furieuse pouvait bavarder. Elle tendit vers son amie une main languide.
« Je sais que tu ne cherches qu'à me protéger, et je t'aime pour cela. Néanmoins, je suis certaine que ton frère ne me fera jamais de mal. »
Elle croisa le regard de Dilo.
« Tu vois, je lis dans ton cœur, et j'en apprends beaucoup sur lui. Vous êtes des gens d'honneur, je n'ai pas peur d'être seule avec lui. »
Les yeux brillants, Dilo s'éloigna.
« Oh, Malta, tu vois tant de choses !»
Manifestement émue, elle regagna le belvédère. Malta regarda Serwin. Elle resserra sa cape autour d'elle pour se couvrir, parfaitement consciente qu'ainsi elle soulignait la finesse de sa taille et la rondeur de ses hanches. Puis elle lui adressa un sourire timide.
« Serwin, » fit-elle en soupirant, « j'ai honte de te parler si franchement, mais j'y suis forcée par la nécessité. Je ne te demande pas de me donner tout ce que tu as, ni tout ce que tu posséderas plus tard. Mais ce que tu peux me proposer, discrètement et sans que cela te gêne, je l'accepterai volontiers. Le plus important pour moi serait que nos familles joignent leurs forces. Demain soir, il y a une réunion du Conseil des marchands. J'y serai. Viens, je t'en prie. Si tu peux convaincre ton père d'y assister et de parler en notre faveur, cela nous aiderait beaucoup. » La perte de notre navire et de mon père ne concerne pas seulement ma famille. Elle affecte tous les marchands. Si ces coupe-jarrets de pirates ne craignent pas de capturer une vive nef, que ne prendront-ils pas? S'ils ne craignent pas de retenir prisonnier un marchand et son fils, qui est en sécurité?
Malta s'exaltait, animée d'une juste colère. Elle saisit les mains de Serwin avec impétuosité.
Si ta famille pouvait se joindre à la mienne dans ce combat!
Et ici, elle baissa la voix.
« Alors peut-être ma grand-mère changera-t-elle d'avis au sujet de Reyn ? Peut-être comprendra-t-elle qu'il y a de meilleures parties ?
Elle desserra son étreinte, le cœur battant, et une chaleur inconnue l'envahit. Il allait la prendre dans ses bras, l'embrasser, et ce serait comme la fin d'une chanson de ménestrel. Elle attendit le contact de ses lèvres, qui l'emporterait comme une feuille au vent. Elle ferma à demi les paupières. Mais il tomba à genoux devant elle.
« Je viendrai au conseil demain soir. Je parlerai à mon père, et je le persuaderai de vous soutenir, » affirma-t-il avec un regard d'adoration. « Tu verras, je prouverai, à toi et au tien, que je suis digne de toi. »
Elle mit un certain temps à trouver une réponse adéquate. Elle avait été tellement sûre qu'il allait l'embrasser. Où avait-elle échoué?
« Je n'ai jamais douté de ton mérite, »
dit-elle enfin d'une voix tremblante, avec le goût de la déception dans la bouche. Il se releva lentement. Il la regarda, les yeux brillants.
« Je me montrerai digne de ta confiance, » promit-il.
Elle attendit, croyant qu'il allait brusquement l'enlacer et l'embrasser avec ardeur. Elle se sentait frissonner d'impatience.
Elle lui lança un regard plein d'audace, brûlant de passion, s'humecta les lèvres, les entr'ouvrit de manière provocante en avançant le menton.
« À demain, Malta Havre, »
conclut-il avec ferveur.
« Et tu verras que je sais tenir ma parole. »
Puis, comme s'il lui disait au revoir après un thé l'après-midi, il s'inclina avec gravité et se tourna vers sa sœur.
« Viens, Dilo, je te ramène à la maison. »
Il se drapa dans sa cape, pivota sur ses talons et s'éloigna à grands pas dans la nuit.
« Adieu, Malta !»
soupira Dilo, puis elle agita les doigts vers son amie.
« Je vais demander à ma mère d'assister aussi au conseil. Peut-être pourrons-nous nous asseoir à côté l'une de l'autre. À bientôt, alors !»
Elle fit demi-tour et s'en alla en toute hâte.
« Serwin, attends-moi !»
Malta resta plantée là, un petit moment, incrédule. Qu'avait-elle fait qui n'allait pas? Pas de gage d'affection, pas de baiser passionné. Il n'avait même pas demandé la permission de la raccompagner chez elle. Elle lança un regard désapprobateur dans leur direction. C'est alors que subitement elle comprit son erreur. Ce n'était pas sa faute à elle, mais celle de Serwin. Elle secoua la tête. Il n'était pas assez viril pour combler ses espérances. Elle se mit en chemin dans l'obscurité pour retourner à la maison. Elle déplissa volontairement le front. Pas question de se retrouver un jour avec les rides de sa mère. Brachen lui avait fait froncer les sourcils. Au début, il s'était montré si grossier avec elle, mais quand elle lui avait proposé du café et qu'elle avait un peu flirté, il avait fini par réagir. Il était à parier que s'il s'était montré au belvédère cette nuit, il l'aurait embrassé, lui, et pour de bon. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas qu'il lui plût. Il avait l'air beaucoup trop brutal avec sa longue moustache et ses soieries de pirate. Il empestait encore le bateau et ses mains étaient couturées et calleuses. Non, elle ne se sentait pas attirée par lui. Mais les regards en biais qu'il coulait vers tante Althea avaient éveillé sa curiosité. Il l'observait comme un chat affamé guette un oiseau. Althea évitait son regard. Même quand elle s'adressait à lui, elle s'arrangeait pour regarder par la fenêtre, remuer une tasse de tisane ou se ronger les ongles. Attitude qui l'avait bouleversée. De temps à autre, il lui parlait directement. À un moment, elle s'était même assise par terre à côté de Selden et lui avait pris la main comme si le petit garçon avait pu la protéger des yeux avides de Brachen. Si sa mère ou sa grand-mère n'avaient rien remarqué, en revanche, Malta, elle, avait tout vu. Elle avait la ferme intention de percer à jour ce qu'il y avait entre eux. Elle découvrirait comment Althea s'y prenait au juste pour qu'un homme la regarde de cette manière. Que devrait-elle dire pour que Serwin la dévisage, elle, avec autant de chaleur? Elle secoua la tête. Non, pas Serwin. La comparaison avec son frère aîné lui avait ouvert les yeux. Il était encore un enfant. Il n'avait aucun pouvoir et son regard était dénué de passion. Il n'était qu'une piètre prise qu'elle devait rejeter à l'eau. Même Rain était plus ardent. Il lui apportait toujours des cadeaux. Elle avait atteint la porte de la cuisine qu'elle ouvrit.
Après tout, si elle se servait du coffre à rêves cette nuit...
Brachen se leva de table. Il n'avait pas touché à la bière qu'il avait commandée. Alors qu'il quittait la taverne, il surprit le geste furtif d'un client qui s'appropriait sa chope. Il sourit amèrement. Bel endroit qu'il avait choisi. Idéal pour un homme qui ne savait rien garder. Dehors, c'était une nouvelle nuit de Terrilville qui s'effilochait. Il se trouvait dans le quartier le plus malfamé de la ville, où les bouges du port partageaient une rue avec les entrepôts, les bordels ou les hôtels borgnes. Il savait qu'il devait rentrer à bord de la veille du printemps. Faini l'attendait. Mais il n'avait rien à lui dire et il lui vint tout à coup à l'esprit qu'il n'y retournerait sans doute jamais. Il était peu probable que Faini vînt le chercher à Terrilville. Il était temps de couper les amarres avec ce genre d'activité. Évidemment, cela impliquait que le bout de sardine dans sa poche serait son dernier. Il s'arrêta net et le chercha en tâtonnant. Il était plus petit qu'il n'aurait cru. En avait-il déjà pris un morceau? Possible. Sans regret, il le fourra sous sa lèvre et reprit son chemin dans la rue obscure. Il y avait un an de cela, Althea et lui avaient arpenté ensemble une rue de Terrilville. Laisse tomber, peu de chances que ça se reproduise. Maintenant, elle se promène au bras de Grag Ténira.
Bon. S'il ne retournait pas à bord de la veille du printemps, où allait-il?
Ses pieds connaissaient déjà la réponse. Il le portait en dehors de la ville, loin des lumières, sur la longue plage déserte où le parangon abandonné gisait dans le sable.
Brachen eut un sourire sarcastique. Il y avait des choses qui ne changeaient jamais. Il était de retour à Terrilville, sans un sou vaillant, et son seul ami était un navire abandonné. Ils avaient beaucoup de choses en commun tous les deux. Ils étaient des parias.
Tout était paisible sous le ciel étoilé. Les vagues murmuraient et se taisaient tour à tour le long de la grève. Il y avait juste assez de brise pour l'empêcher de transpirer tandis qu'il foulait le sable mou. C'eût été une nuit exquise s'il avait eu une seule raison de se sentir bien. Mais en l'occurrence, le vent agitait le vide en lui et la clarté des étoiles était froide. La sardine lui avait redonné de l'énergie, mais à quoi bon? Elle n'avait eu pour effet que de le réveiller complètement. Il était dans un état vigile et se sentait troublé. Malta, par exemple. À quel jeu, par la barbe de ça, s'était-elle livrée avec lui? Il ignorait s'il devait se sentir importuné, ridiculisé ou flatté par l'attention qu'elle lui avait portée. Il ne savait que penser d'elle, femme ou enfant. Au retour de sa mère, elle s'était transformée en jeune dame pleine de retenue, excepté quelques remarques acérées de temps à autre, lancées avec une telle innocence qu'elle paraissait involontaire. Malgré ses manières apparemment décentes dès l'arrivée de ses aînés, elle l'avait observé durant la soirée. Il avait surpris ses regards curieux qui allaient d'Althea à lui. Des regards dénués de bonté. Il tâchait de se persuader que c'était à cause d'elle si Althea avait évité de le regarder. Elle ne voulait pas que sa nièce devine ce qu'il s'était passé entre eux. Trois enjambées lui suffirent pour admettre tristement qu'elle ne lui avait pas manifesté la moindre chaleur ni le moindre intérêt. Elle avait été courtoise, tout comme Kefria, ni plus ni moins. Comme il convenait à la fille d'Ephron Vestrit, elle avait été gracieuse, hospitalière, même pour le messager de mauvaises nouvelles. Elle n'avait manqué qu'une seule fois à la politesse, quand Ronica lui avait proposé de dormir sous leur toit. Kefria avait insisté pour qu'il accepte, arguant de l'heure tardive et de sa fatigue. Althea, de son côté, avait gardé le silence. Ce qui avait emporté la décision de Brachen. Il était parti. Althea était ravissante. Oh, elle n'avait pas le genre de séduction de sa sœur ni le charme de Malta. Leur beauté à toutes deux était soignée, apprêtée. Un peu de rouge, un soupçon de poudre, une coiffure compliquée, une toilette recherchée, tout était calculé pour les mettre en valeur. Althea était rentrée de la ville, les sandales poussiéreuses, les cheveux frisottants de sueur sur son front et sa nuque. Ses joues brûlaient de la chaleur de l'été et l'animation du marché brillait dans ses yeux. Sa jupe et son corsage étaient simples, choisis pour la liberté de mouvement qu'ils permettaient plutôt que pour la finesse de leur étoffe. Même quand elle s'était battue avec Malta en entrant dans le cabinet de travail, elle l'avait impressionnée par sa vitalité. Elle n'était plus le petit mousse du moissonneur, ni même la fille du capitaine de la Vivacia. Le séjour à Terrilville avait profité à son teint et à ses cheveux. Sa tenue était plus féminine, moins utilitaire. Elle avait l'allure d'une fille de marchand. En conséquence, inaccessible. Beaucoup de « et si » lui vinrent à l'esprit. S'il avait été l'héritier de la fortune des Trelles et du statut de marchand, s'il avait suivi les conseils du capitaine Vestrit et économisé de l'argent, si Althea avait hérité du navire et l'avait gardé, lui, comme second, tant de si, mais il n'avait pas plus d'espoir de la conquérir que de rentrer en possession de ses biens. Donc, à jeter, avec tous ses avenirs mis au rebut. Continue à marcher dans la nuit déserte. Avec les restes fibreux de la Saint-Dine, il cracha son amertume. La silhouette sombre du parangon se découpait sur le dais brillant du ciel étoilé. Il perçut la vague odeur de fumée d'un feu quelque part. En s'approchant, il se mit à siffler. Il savait que Parangon n'aimait pas être surpris. Il interpella gaiement.
« Parangon, personne ne t'a encore transformé en petit bois ?»«
Qui va là ?»
Dans l'obscurité, la voix froide le fit s'arrêter net.
« Parangon ?»
interrogea Brashen déconcerté.
« Non ?» « Parangon, c'est moi. Si je ne me trompe, tu es Brashen ?»
répondit la vive nef sur le ton de la plaisanterie, en ajoutant à l'intention d'un tiers.
« Il n'est pas dangereux, Ambre. Tu peux lâcher ton bâton. »
Brashen scruta les ténèbres. Une mince silhouette se dressait entre lui et le navire, sur le qui-vive. Elle se déplaça et il entendit le bruit du bâton qu'elle appuya à un rocher. « Ambre ?» La fabricante de perles ? Elle s'assit sur un banc ou des piles empilées. Il se risqua à s'approcher. Salut ?
Salut,
répondit-elle d'une voix prudente mais amicale.
Brashen, je voudrais te présenter mon ami Ambre. Ambre, voici Brashen, Trelle. Tu le connais un peu. Tu as fait le ménage après lui quand tu t'es installé ici. »
La voix de Parangon trahissait une excitation enfantine. Il était ravi de la rencontre, apparemment. Il taquinait Brashen sur le ton hâbleur d'un adolescent.
« Installé ici ?»
se surprit-il à demander.
« Oh oui, Ambre habite à bord maintenant. »
Un instant d'hésitation.
« Oh, tu venais certainement pour dormir, non ? Eh bien, ce n'est pas la place qui manque, tu sais. Elle n'a pris que la chambre du capitaine, et elle a entreposé quelques affaires dans ma cale. Ambre, cela ne te dérange pas, hein ? Brashen vient toujours dormir ici quand il n'a pas d'autre endroit où loger, et quand il n'a plus d'argent. »
Le silence dura un peu plus longtemps que ne l'exigeait la politesse. Brashen perçut un soupçon d'embarras dans la voix d'Ambre quand elle répondit
« Tu es ton maître, Parangon. Je n'ai pas mon mot à dire sur les gens que tu reçois à bord. »«
Oui, hein ? Eh bien, si je suis mon maître, pourquoi es-tu si résolu à m'acheter ?»
Maintenant, c'était elle qu'il taquinait, s'esclaffant comme un gamin à sa propre plaisanterie. Brashen en goûta guère le sel. Que fabriquait-elle avec la vive nef ? Personne ne peut acheter une vive nef, Parangon, corrigea-t-il doucement. La vive nef fait partie de la famille du marchand. Tu ne peux pas naviguer sans un membre de la famille à ton bord, expliqua-t-il, et il ajouta plus bas. Déjà, ce n'est pas tellement bon pour toi d'être ici tout seul.
« Je ne suis plus tout seul !»
protesta la figure de proue.
« Ambre vient presque chaque nuit dormir à bord. Et tous les 10 jours, elle prend un congé et vient passer l'après-midi avec moi. Si elle m'achète, elle ne naviguera pas. Elle va me renflouer et puis créer des sortes de jardins là-bas et...
Parangon !
Interrompit Brashen presque sévèrement. Tu appartiens aux Lutchans. Ils ne peuvent pas te vendre et Ambre ne peut pas t'acheter. Pas plus que tu n'aies un pot de fleurs géant pour qu'il t'enguirlande de vignes. Ce serait méchant de te faire croire des choses pareilles. Et il décocha un regard noir à la frêle silhouette assise en silence dans l'ombre. Ambre se releva en ondoyant. Elle marcha sur lui en carrant les épaules comme un homme s'apprêtant à défier un adversaire au combat. Sa voix était tendue mais égale quand elle déclara
« Si ce que vous prétendez est vrai, alors la cruauté vient d'abord des Lutchans. Ils l'ont laissé moisir ici et broyer du noir pendant toutes ces années. Maintenant que les temps changent et que apparemment tout s'achète à Terrilville, ils considèrent les offres des nouveaux marchands. Ils ne feront pas de parangon un pot de fleurs géants, non. Ils vont le débiter et le vendre en petits morceaux pour fabriquer des colifichets et des bibelots. »
Brashen fut frappé d'horreur. Machinalement, il tendit la main vers la coque argentée du navire en un geste apaisant.
« Cela ne se peut, » affirma-t-il d'une voix étranglée. « Tous les marchands se soulèveront en armes pour empêcher une chose pareille. »
Ambre secoua la tête.
« Vous êtes parti depuis longtemps, Brashen Trail. »
Elle se tourna et donna des coups de pied dans le sable. Des étincelles jaillirent des braises mourantes d'un feu de camp. Elle se pencha, et après un moment, deux petites flammes s'épanouirent. Brashen la regardait en silence ranimer le feu avec des brindilles et des bouts de bois.
« Asseyez-vous, »
lui proposa-t-elle d'une voix lasse. Puis, sur un ton conciliant, elle ajouta
« Tout ceci a mal commencé. En fait, j'attendais votre retour avec impatience. J'espérais que vous m'aideriez avec Althea. Elle a convenu à contre-cœur que ce serait la meilleure solution pour Parangon si j'en faisais l'acquisition. Si vous joignez votre voix à la sienne, peut-être pourrions-nous tous les trois faire entendre raison aux Lutchans. »
Elle leva les yeux vers Brashen qui la scrutait d'un regard désapprobateur.
« Vous aimeriez une tasse de tisane ?»
Il se baissa, tout raide, pour se percher sur un gros bout de bois de flottage. Il s'appliqua à garder une voix neutre. « Il m'est difficile de croire qu'Althea puisse jamais souscrire à la vente d'une vive nef. »
« Je n'ai fait que lui exposer les faits et elle a été d'accord. »
À la lueur du feu, elle roula des yeux vers Parangon. Son petit mouvement de tête indiquait clairement qu'elle ne voulait pas discuter davantage en présence du navire. Bien que dévorée de curiosité, Brashen dut admettre qu'elle était sage. Ce soir, Parangon était d'humeur joyeuse. Inutile de réveiller son côté querelleur. Pour le moment, le mieux était de les amadouer tous les deux et de recueillir le plus d'informations possible.
Alors je sais que Parangon est heureux de vous voir et voudra tout savoir de vos aventures. Depuis combien de temps êtes-vous à Terrilville ?
Poursuivit Ambre d'une voix naturelle.
« Nous avons mouillé aujourd'hui même, »
répondit-il. Un silence suivit ses paroles. L'étrangeté de la situation lui apparut soudain. Ambre menait la conversation comme une maîtresse de maison donnant une réception.
« Et vous allez rester longtemps ?»«
Je n'en sais rien. Je suis revenu dire à Althea que j'avais vu Vivacia. Les pirates l'ont capturée. » Je ne sais pas si Kyle et Yémin sont en vie. Je ne sais pas non plus quel a été le sort de l'équipage. »
Les mots s'étaient échappés malgré lui. Il n'avait pas réfléchi à l'opportunité de ses propos.
« Althea est au courant ? Comment a-t-elle réagi ?»
demanda Ambre d'une voix où perçait une inquiétude sincère.
« Elle était anéantie, bien sûr. Demain, elle va se rendre au conseil pour solliciter le secours des marchands. » Le pire, c'est que Kenneth ne réclamera probablement pas de rançon. Il veut garder le navire. À supposer que Yémin et Kyle soient toujours vivants, il sera sans doute obligé de les garder aussi s'il veut préserver l'équilibre du navire.
« Les pirates !»
N'eût été la terreur que sa voix trahissait, le ton semblait rêveur.
« Je les connais, les pirates.
Il tue et tue et tue encore sur les ponts. Le sang s'infiltre toujours plus profondément jusqu'à ce que le bois soit tellement saturé de vie que tu ne peux même plus distinguer la tienne. Puis il te coupe le visage, ouvre les robinets de noyage et tu coules. Le pire, c'est qu'il te laisse en vie.
La voix se brisa, comme si parangon muet, avant de retomber dans le silence. Brachen croisa le regard d'Ambre dont les yeux étincelaient d'horreur muette. Ils se levèrent et tendirent tous deux le bras vers le navire. La voix, profonde et rauque, arrêta leur geste.
« Ne me touchez pas !»
C'était un ordre affolé.
« Allez-vous-en, vermine, traître, vaurien, ordure, fumier! Vous n'avez pas d'âme, sinon comment auriez-vous pu me faire subir ça ?»
Il tourna la tête dans tous les sens, aveuglément, et brandissait ses grands poings pour se défendre.
« Retirez-moi vos souvenirs. Je ne veux pas de vos vies. Vous me noyez. Vous cherchez à me faire oublier qui je suis, qui j'étais. Mais non !»
rugit-il plein de défis. Puis il se mit à rire d'un rire dément, suivi d'un chapelet d'obscénité.
« Ce n'est pas à nous qu'il s'adresse. »
dit Ambre à voix basse. Mais Brachen n'en était pas si sûr. Pas plus qu'elle, il n'essaya de toucher le navire. Mais elle lui prit le bras et l'entraîna le long de la plage dans l'obscurité. Les malédictions et imprécations enragées de Parangon continuaient de leur parvenir. Quand ils furent loin de la lueur du feu, elle s'arrêta et se tourna vers lui.
« Il a l'ouïe exceptionnellement fine. » Il vaut mieux le laisser seul quand il est dans cet état. Si on tente de le ramener à la raison, cela ne fait qu'empirer les choses. »
Elle haussa les épaules en signe d'impuissance.
« Il doit se ressaisir de lui-même. »
« Je sais. »
« Je sais que vous savez. Vous comprenez bien, je crois, qu'il ne peut pas en supporter davantage. À chaque minute, il redoute qu'on vienne le prendre. Il ne peut même pas dormir pour oublier. Presque chaque jour, maintenant, il se réfugie dans sa folie. J'essaie de lui éviter tout souci, mais il n'est pas bête. Il sait que sa vie est menacée et qu'il ne peut pas grand-chose pour se défendre. »
Même dans le noir, Brachen percevait l'intensité de son regard.
« Il faut que vous nous aidiez. »
« Mais je ne peux rien faire. » Je ne sais pas ce que Parangon ou Althea vous ont dit sur moi, si vous croyez que j'ai une quelconque influence. Mais ce n'est pas vrai. Bien au contraire. Si je prête mon soutien à une cause, alors les gens bien de Terrilleville s'y opposeront vertueusement. Je suis un paria, comme ce bateau. Votre cause aboutira plus certainement sans moi, déplora-t-il en secouant la tête. Non que je croie d'ailleurs qu'elle puisse aboutir.
Alors il faudrait tout simplement que je renonce ?
Demanda-t-elle avec douceur.
« Que je le laisse s'enfoncer toujours plus dans la folie, jusqu'à ce que les nouveaux marchands viennent le remorquer pour le débiter en morceaux ? Que nous dirons-nous l'un à l'autre après, Brachen ? Que nous ne pouvions rien faire ? Que nous ne croyions pas cela possible ? Cela fera-t-il de nous des innocents ?»«
Innocents ? » Qu'on insinue qu'il était responsable de ce gâchis le rendit furieux. « Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis innocent. »
La moitié du mal en ce monde s'accomplit sans que les honnêtes gens interviennent. Ils ne font rien de mal. Il ne suffit pas de s'abstenir de faire le mal, Trelle. On doit s'efforcer de faire le bien, même quand on ne croit pas au succès.
« Même quand c'est stupide ?» répliqua-t-il sarcastique.
« Surtout dans ce cas-là, » répondit-elle doucement. « C'est comme ça, Trelle. On se brise le cœur contre ce monde impitoyable. On se jette à corps perdu du côté du bien, sans demander le prix à payer. C'est comme ça qu'on y arrive. »
« Qu'on arrive à quoi ? »
lança-t-il, en colère pour de bon à présent.
« À se faire tuer, pour le plaisir d'être un héros !»«
Peut-être, » concéda-t-elle. « Peut-être, en effet. Mais alors on se rachète pour de bon en devenant un héros. »
Elle inclina la tête et le jaugea du regard.
« Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu envie de devenir un héros. »
« Non, je n'ai jamais voulu devenir un héros, »
fit-il sur un ton de défi. Parangon continuait ses imprécations. On aurait dit qu'il était ivre et qu'il délirait. Brachen tourna la tête pour contempler le navire. La lueur jaune du feu dansait sur sa figure mutilée par la hache. Qu'attendait-elle de lui, cette femme? Il ne pouvait rien faire pour venir en aide au bateau, ni à qui que ce soit.
« Je n'ai jamais voulu qu'une seule chose, vivre ma vie. Et sacré nom, on ne peut pas dire que je me débrouille très bien. »
Elle rit tout bas. « C'est seulement parce que vous vous en écartez, que vous lui tournez le dos et que vous l'évitez, »
ajouta-t-elle en secouant la tête.
« Trelle, Trelle, ouvrez les yeux. Ce terrible gâchis, c'est votre vie. Inutile d'attendre qu'elle s'améliore. Arrêtez de tergiverser et vivez-la. »
Elle se remit à rire. Sa voix, son regard semblaient venir de loin.
Tout le monde croit que le courage, c'est affronter la mort sans flancher. Mais tout le monde ou presque est capable de cela. Tout le monde ou presque est capable de se retenir de crier le temps de mourir. Le vrai courage, c'est affronter la vie sans flancher. Je ne parle pas des moments où le chemin du bien est rude, mais aboutit à la gloire. Je parle de l'ennui, des complications, des inconvénients qu'il y a à faire le bien. »
Elle inclina la tête et le scruta.
« Je pense que vous en êtes capable, Trelle. »
« Arrêtez de m'appeler comme ça !»
siffla-t-il. L'épeler par son nom de famille s'était versé du sel sur sa blessure. Elle lui prit brusquement le poignet.
« Non ! C'est vous qui allez arrêter. Arrêtez de penser que vous êtes un fils déshérité. Vous n'êtes pas ce qu'il espérait. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes rien, ni que vous êtes parfait. Arrêtez de vous servir de vos erreurs comme prétexte pour échouer complètement. »
Il se dégagea d'une secousse. « Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Qui êtes-vous pour en savoir autant ?»
À son grand dépit, il finit par deviner la source de ses renseignements. Althea avait parlé de lui.
Que lui avait-elle raconté?
Il la regarda et comprit. Althea lui avait tout dit, tout. Il se tourna et s'éloigna rapidement.
Il aurait souhaité que les ténèbres l'engloutissent complètement.
« Brachen, Brachen !»
Il poursuivit sa marche.
« Où allez-vous, Trelle ?»
C'était un cri rauque dans l'obscurité.
« Jusqu'où irez-vous pour vous fuir ?»
Il l'ignorait. Il ne pouvait répondre. Les mules étaient trempées. Malta les jeta dans un coin de son placard et prit une robe chaude. Malgré la douceur de la saison, cette sortie nocturne l'avait gelée. Elle s'empara du coffre à rêves. Elle prit la poudre grise qu'elle avait dissimulée dans un sachet d'herbe contre le mal de tête. Un frisson d'excitation la parcourut quand elle ouvrit le sachet orné de dentelles. Elle le versa dans le coffre à rêves qu'elle secoua prudemment.
Une fine poussière de rêve miroita, en suspension dans l'air.
Malta éternua bruyamment et referma vivement le couvercle.
Elle éprouva une sensation bizarre dans la gorge, une sorte d'engourdissement et de chaleur.
Secouez-la bien, attendez, puis ouvrez-la près de votre lit. Elle se répéta les instructions. En se dirigeant vers le lit, elle secoua la boîte, elle tira les draps, grimpa sur le matelas, souleva le couvercle, elle souffla sa bougie, s'allongea sur les oreillers, ferma les yeux et attendit. Attendit. L'impatience la trahissait. Elle ne pouvait s'endormir. Elle gardait résolument les yeux fermés et s'exhortait au sommeil. En vain. Alors, elle se concentra sur Rain. Elle le trouvait beaucoup plus séduisant après l'attitude décevante de Serwin. Quand celui-ci l'avait prise dans ses bras, il lui avait paru chétif. Il n'avait pas la large poitrine de Rain. Elle réfléchit. Lui, il n'aurait certainement pas laissé passer l'occasion de voler un baiser. Son cœur se mit à battre plus fort. Rain provoquait en elle une tempête d'émotions contradictoires. Par les cadeaux qu'il lui faisait, par l'attention qu'il lui prodiguait, elle se sentait importante. Sa fortune était attirante, surtout après une année entière de restrictions. Parfois, peu lui importait son visage voilé et ses mains gantées. Elle pouvait imaginer que sous ses voiles se dissimulait un beau jeune homme. Lorsqu'il l'avait guidée avec tant de grâce dans des pas de danse compliqués, elle avait senti dans son contact force et agilité. De temps à autre seulement, elle se demandait si le voile ne cachait pas un visage verruqueux et difforme. Quand ils s'étaient séparés, elle était assaillie de doutes. La sympathie que lui témoignaient ses amis était encore pire. Ils étaient sûrs et certains qu'il était un monstre. La plupart du temps, Malta soupçonnait qu'ils étaient jaloux des cadeaux et des attentions dont il la comblait. Peut-être souhaitait-il qu'il fût laid par envie. Oh, elle ne savait pas ce qu'elle éprouvait, elle ne savait que croire, et elle ne s'endormait pas. Elle avait gaspillé la poudre de rêve. Tout allait de travers. Elle se retournait dans son lit, le corps et l'esprit agités de désirs qu'elle comprenait à peine. Oh, si son père était revenu, il aurait tout arrangé.
« Je veux sortir. Pourquoi ne m'aides-tu pas ?»«
Je ne peux pas, je t'en prie. Comprends que je ne peux pas et arrête de me supplier. »
Le dragon emprisonné se montra méprisant.
« Tu ne veux pas. Tu pourrais, mais tu ne veux pas. » Il ne faudrait que la lumière du soleil ouvre les volets et laisse entrer la lumière. Je m'occuperai du reste.
Je te l'ai dit. La salle dans laquelle tu te trouves est enterrée. Jadis, j'en suis sûr, il y avait de grandes fenêtres et des volets. Mais tout est enfoui à présent. La terre te recouvre et les arbres y poussent. Tu te trouves sous une colline boisée.
« Si tu étais vraiment mon ami, comme tu le prétends, tu creuserais et tu me libérerais. Je t'en prie, il faut que je sois libre, pas seulement pour moi, mais pour tous mes semblables. »
Rain remua dans son lit, en chiffonnant les draps. Il ne se sentait pas complètement endormi, il ne rêvait pas, mais il n'était pas éveillé non plus. La vision du dragon était devenue un tourment presque quotidien. Quand il dormait, le dragon le regardait, regardait en lui et à travers lui, avec d'immenses yeux cuivrés aussi larges que des roues de voiture. Il roulait des yeux, et les couleurs dansaient autour des vastes pupilles ovales. Il ne pouvait détourner le regard, il ne pouvait se libérer du rêve ni se réveiller. Le dragon était emprisonné dans son cocon de bois sorcier, et lui était emprisonné dans le dragon.
« Tu ne comprends pas !» gémit-il dans son sommeil. « Les volets sont enterrés, le dôme est enterré, le soleil ne brillera plus jamais dans cette salle. »
« Alors, ouvre les portes et sors-moi de là. Place des rouleaux s'il le faut et prends des chevaux pour tirer. Sors-moi de là, peu m'importe comment, expose-moi seulement au soleil. »
Impossible de lui faire comprendre.
« Je ne peux pas. Tu es trop grand pour qu'un homme seul puisse te bouger, et personne ne veut m'aider. Même si j'avais beaucoup d'ouvriers et des chevaux, cela ne servirait à rien. Cette porte ne s'ouvrira plus jamais. Personne ne sait comment elle s'ouvrait à l'origine. D'ailleurs, elle est enterrée. Il faudrait que des dizaines d'hommes travaillent pendant des mois pour creuser et enlever la terre. Même ainsi, je doute qu'on puisse jamais ouvrir cette porte. La structure est lézardée et fragile. « Si on retire la porte, je crois que le dôme cédera tout entier. Tu seras enseveli encore plus profondément. »«
Cela m'est égal. Prends le risque, ouvre la porte, je pourrais t'aider à trouver un moyen. »
Puis la voix se fit enjôleuse.
« Je pourrais te révéler tous les secrets de la cité. Tu n'auras qu'à me promettre d'ouvrir la porte. »
Sa tête remua sur les oreillers humides de sueur. « Non, tu me noierais de souvenirs. Cela ne nous avancerait à rien. Pour mon peuple, c'est la folie. Ne me tente pas. »
« Alors, attaque-toi à la porte. Avec des haches et des marteaux, elle devrait céder. » Tant pis si elle doit tomber sur moi. Même si j'en meurs, je serai plus libre que maintenant. Reine, reine, pourquoi ne me délivres-tu pas? Si tu étais vraiment mon ami, tu me délivrerais. »
Il se tordit de douleur en entendant ces paroles de détresse. « Je suis ton ami, ton ami. Je désire de toutes mes forces te délivrer, mais je ne peux pas le faire seul. » Je dois d'abord rallier les autres à ma cause. Alors, on trouvera un moyen. Sois patient, je t'en supplie, sois patient. »
« La faim ne connaît pas la patience. La folie ne connaît pas la patience. Elles sont inexorables. Reine, reine, pourquoi ne puis-je te faire comprendre les conséquences de ta cruauté? Tu es en train de nous détruire tous à jamais. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir !»«
Je ne peux pas !»
rugit-il. Il ouvrit les yeux dans sa chambre obscure. Il s'assit dans son lit en haletant comme un lutteur. Il était entortillé dans les draps humides de sueur qui l'entravaient comme un linceul. Il se dégagea et fit quelques pas, nu, au milieu de la pièce. L'air de la nuit qui pénétrait par la fenêtre ouverte rafraîchissait son corps brûlant. Il passa la main dans ses cheveux épais et bouclés, les redressa pour les laisser sécher. Il gratta la nouvelle excroissance apparue dans son cuir chevelu, puis laissa retomber les mains. Il alla jusqu'à la fenêtre et contempla la vue. La colonie de Trois Nous était suspendue dans les arbres le long des berges du fleuve du désert des pluies. D'un angle de sa maison, il pouvait voir le fleuve impétueux. De l'autre côté, à travers les arbres, il apercevait l'ancienne cité. Quelques lumières y brillaient encore. Le travail d'excavation et d'exploration ne cessait jamais. Quand on travaillait au plus profond des salles ensevelies, peu importait qu'il fît jour ou nuit. Au cœur de la colline régnait d'éternelles ténèbres. Comme il faisait toujours noir à l'intérieur du cercueil de bois sorcier, dans la salle du coq couronné. Il envisagea une fois de plus de parler à sa mère de ses cauchemars, mais il prévoyait sa réaction. Elle donnerait l'ordre qu'on débite le dernier fût de bois sorcier. On ferait tomber sur les dalles de pierre froide l'immense corps mou, le précieux fût de bois sorcier serait réduit en planches et en madriers pour construire un navire. C'était la seule matière découverte par les gens du désert des pluies qui paraissait inaltérable à l'acidité des eaux du fleuve. Même les arbres et les buissons sur les berges ne résistaient que si leur écorce était intacte. À la moindre entaille, le fleuve commençait à les dévorer. Quant aux échassiers argentés qui nichaient dans les bas-fonds, ils avaient des plaies noueuses aux pattes. Seul le bois sorcier paraissait offrir une protection contre les eaux laiteuses du fleuve du désert des pluies. Et la famille Rouprous possédait le dernier et le plus grand fût. S'il ne tenait qu'à lui, il trouverait le moyen de l'exposer au soleil pour voir ce qu'il en sortirait. Le fût serait certainement détruit. Une vieille tapisserie moisie paraissait illustrer ce genre d'éclosion. Une créature molle et blanche pointait la tête parmi des débris détrempés de bois sorcier. Elle en serrait des fragments dans ses mâchoires, comme si elle dévorait les restes de sa prison. Ses yeux étaient fous, et les êtres humanoïdes qui assistaient à sa renaissance semblait frappé d'effroi sacré. Parfois, en regardant la tapisserie, Reyn se disait que son idée était pure folie. Pourquoi prendre le risque de libérer une créature aussi redoutable? Mais elle était la dernière de son espèce, le dernier véritable dragon. Il retourna se coucher.
et il s'allongea en cherchant une pensée qui lui permettrait de se reposer sans dormir. S'il s'endormait, le rêve du dragon s'emparerait de lui et l'affaiblirait une fois de plus. Il songea à Malta avec lassitude. Parfois, quand il songeait à elle, il éprouvait plaisir et impatience. Elle était si ravissante, si ardente, si fraîche. L'entêtement dont elle faisait preuve, il le voyait comme une force qu'il n'avait pas encore trouvée à se réaliser. Il savait ce que sa famille pensait d'elle, non sans raison. Elle était têtue, égoïste et très gâtée. Elle était le genre de femme à se défendre farouchement, à poursuivre obstinément son but.
S'il pouvait s'acquérir sa loyauté, elle serait parfaite. Comme sa mère, elle protégerait et guiderait leurs enfants. Pour eux, elle tiendrait d'une main ferme la fortune et le pouvoir, longtemps après que Rain serait mort. On dirait certainement que sa femme se montrait brutale et sans scrupules en défendant sa famille, mais on le dirait avec envie. S'il pouvait la gagner à sa cause. C'était là que le bât blessait. En quittant Erilville, il avait été persuadé de sa victoire. Mais elle n'avait pas utilisé le coffre à rêve pour le contacter. Il n'avait reçu qu'un billet poli depuis qu'il était parti. C'était tout.
Il se retourna, désolé, et ferma les yeux. Il sombra peu à peu dans le sommeil et dans le rêve.
Rain, Rain, il faut que tu m'aides.
Je ne peux pas. Gémit-il. L'obscurité se dissipa et Malta s'avança vers lui. Elle était d'une beauté éthérée. Sa chemise de nuit blanche se gonflait d'un vent surnaturel. Ses cheveux bruns flottaient dans la nuit et ses yeux étaient empreints de mystère. Elle marchait seule dans le noir complet. Il savait ce que cela signifiait. Elle était venue le chercher. Elle n'avait pas inventé de décor, elle n'avait pas créé d'image. Elle s'était allongée pour rêver en ne pensant qu'à lui.
« Rain ?»
répéta-t-elle.
« Où es-tu ? J'ai besoin de toi. »
Il se ressaisit, puis pénétra dans le rêve.
« Je suis là, » dit-il doucement. Pour éviter de la faire sursauter.
Elle se tourna vers lui et le considéra des pieds à la tête.
« Tu n'avais pas ton voile la dernière fois ?»
protesta-t-elle. Il sourit. Il avait choisi une image réaliste de lui-même, vêtu sobrement, voilé et ganté. Il devina que la chemise de nuit qu'elle portait était son vêtement dans la réalité. Il se rappela qu'elle était très jeune. Il ne profiterait pas d'elle. Peut-être ne comprenait-elle pas parfaitement le pouvoir du coffre à rêve.
La dernière fois, tu as apporté beaucoup d'idées dans notre rêve, moi aussi. Nous les avons laissées se mélanger et avons vécu la suite. Ce soir, nous n'apportons que nous-mêmes et ce que nous désirons.
Il balaya l'obscurité d'un geste large. Un paysage se déploya dans son sillage. C'était l'une de ses tapisseries préférées. Des arbres noirs, dénudés, offraient des fruits ronds d'un jaune étincelant. Un sentier d'argent serpentait entre les arbres, puis s'échappait vers une forteresse au loin. Le sol de la forêt était tapissé de mousse épaisse. Un renard, avec un lapin dans la gueule, les observait dans des ronciers. Un couple, trop grand pour être réellement humain, lui les cheveux cuivrés, elle dorée, se tenait au dernier plan, étroitement enlacé contre un tronc noir. Rain les avait imaginés figés dans le temps, mais la femme soupira tout à coup et tourna la tête pour recevoir le baiser de l'homme. Il sourit. Elle apprenait si vite à jouer, cette Malta. Ou bien ignorait-elle qu'elle était à l'origine de ce baiser? Elle détourna les yeux du couple passionné, s'approcha de quelques pas et baissa la voix comme si elle avait peur de déranger les fantômes.
« Rain, j'ai besoin de toi. »
Il avait cru que cette supplique était l'ombre de son rêve précédent sur le dragon. Que se passe-t-il ? Elle regarda par-dessus son épaule le couple amoureux. La main de l'homme remontait lentement jusqu'au décolleté de la femme. Malta s'arracha à cette vision. Il sentit qu'elle se concentrait sur lui.
Tout va aussi mal que possible. Les pirates ont capturé le navire de notre famille, le capitaine qui s'est emparé du bateau a la réputation de tuer tout l'équipage de ses prises. Si mon père est encore en vie, nous espérons une demande de rançon. Mais nous n'avons pas assez d'argent. Si nos créanciers découvrent que nous avons perdu notre vive nef, ils refuseront de nous prêter davantage. Il est même plus probable qu'ils se dépêcheront de réclamer leur dû.
Malgré elle, ses yeux revinrent errer sur le couple. Leur jeu amoureux était devenu plus intime, ce qui sembla la distraire et l'agiter. En se félicitant de sa maîtrise de soi, Rain lui prit la main. Il la conduisit lentement sur un autre sentier qui l'éloignait du couple amoureux. « Que veux-tu que je fasse ?»«
Embrasse-moi !»
C'était un ordre. Les mots ne venaient pas de Malta. Ils provenaient d'un autre couple sous un autre arbre. Le jeune homme étreignait les épaules de sa compagne d'un geste dominateur. Il baissa les yeux sur son visage fier. Elle lui lança un regard de dédain glacial, mais il se pencha sur ses lèvres. Malgré lui, Rain se sentit troublé. La femme se débattit un peu, puis serra la nuque de son compagnon pour l'embrasser plus étroitement. Rain détourna la tête, gêné par la vigueur du geste. Il tira Malta par la main et ils continuèrent à marcher.
« Que peux-tu faire ?»
demanda Malta.
Il réfléchit. Ce n'était pas le genre de conversation qu'on avait d'ordinaire dans les rêves partagés. « Ta mère devrait écrire à la mienne. Ce sont elles qui doivent en discuter, pas nous. »
Comment sa mère réagirait-elle ? En venant lui demander de l'aide, Malta paraissait avoir oublié que c'était les Rouprousses qui détenaient maintenant la reconnaissance de dette. Non seulement il faisait partie de ces créanciers que Malta redoutait, mais le navire piraté garantissait la créance. La situation était embrouillée. La magie des Vivenefs devait être jalousement protégée. L'acquéreur devait garantir que le navire ne tomberait jamais entre des mains étrangères. Quand il avait persuadé sa mère de racheter la dette des Vestrites, celle-ci avait escompté qu'à long terme, le navire serait donné en cadeau de noces à la famille Vestrite. Il avait espéré que ses enfants finiraient par en hériter. La perte définitive du navire représentait pour n'importe qui un rude coup. Sa mère serait certainement poussée à agir, mais de quelle façon ? Il ne s'était jamais intéressé aux affaires financières de la famille. C'était sa mère, son frère aîné et son beau-père qui s'en occupaient. Lui, il était l'explorateur, l'érudit. Il prospectait les découvertes que les autres transformaient en argent. Ce qu'il faisait de cet argent ne le concernait pas. Maintenant, il se demandait s'il n'aurait pas son mot à dire. Malta fut outrée.
« Rain, il s'agit de mon père !» « Je ne peux pas attendre que ma mère parle à la tienne. Si on doit le sauver, c'est maintenant. »
Il prit la mesure de son impuissance. « Malta, je n'ai pas le pouvoir de t'aider directement. Je suis le cadet, j'ai un frère et une sœur aînée. »
Elle tapa du pied, furieuse. « Je ne te crois pas. Si tu m'aimes un tant soit peu, tu m'aideras. »
« Elle ressemble au dragon, » pensa-t-il, soudain désorienté. L'idée était dangereuse à concevoir dans le décor du coffre à rêves. La terre se mit tout à coup à trembler sous leurs pieds. Suivit une deuxième secousse, plus forte que la première. Malta se cramponna à un arbre pour ne pas tomber.
« Qu'est-ce que c'était ? »
demanda-t-elle. « Un tremblement de terre, » répondit-il calmement. Ils étaient chose fréquente à Trois-Nous. La cité suspendue se balançait avec les arbres dans lesquels elle se nichait et ne subissait pas grand dommage. En revanche, les secousses provoquaient d'importants dégâts aux travaux d'excavation. S'agissait-il d'un véritable tremblement de terre qui s'insinuait dans le rêve ou d'un imaginaire ?
« Je sais ce que c'est qu'un tremblement de terre !»
répliqua Malta qui semblait agacée.
« Les rivages maudits y sont continuellement exposés. Je parlais de ce bruit !»
« Un bruit ? » répéta-t-il mal à l'aise.
Comme un frottement, un grattement. Tu n'entends pas ?
Il l'entendait constamment. En état de veille, dans son sommeil, le bruit des griffes du dragon qui labourait sa tombe le hantait.
Tu l'entends toi aussi ? Il était stupéfait.
Il avait appris à ne plus prêter attention à ce bruit qu'on lui disait n'existait que dans son imagination. Avant qu'il pût répondre, tout commença à changer. La forêt se para de couleurs vives, nouvelles. Une intense odeur de fruits mûrs flotta dans la brise tiède. Sous leurs pieds, la mousse était plus rêche tandis que le sentier scintillait au soleil. Le bleu du ciel s'approfondit. Ce n'était plus la tapisserie du souvenir de Reyn. Quelqu'un d'autre complétait la vision du coffre à rêves et il ne croyait pas qu'il s'agit de Malta. Il en fut convaincu lorsqu'il vit s'amonceler à l'horizon les nuages orageux. Le vent qui se levait faisait tomber, comme des pierres, les fruits mûrs des arbres. L'un d'eux s'écrasa au pied de Malta et son nectar exhala une lourde odeur de déliquescence.
« Malta, nous devrions nous séparer maintenant. Dis à ta mère que... »
Au-dessus de leur tête, un éclair déchira le ciel, suivi aussitôt d'un coup de tonnerre. Reyn sentit ses cheveux se dresser sur sa tête et perçut une odeur singulière dans l'air.
Muette, Malta s'accroupit et pointa le doigt vers le ciel.
Le vent agitait sauvagement sa chevelure et plaquait sa chemise de nuit sur son corps. Un dragon planait au-dessus des arbres. Le battement puissant de ses ailes aiguillonnait les vents. Même la lumière voilée ne ternissait pas sa splendeur. Il était iridescent.
Les couleurs ruisselaient sur son corps argenté et sur ses ailes. Ses yeux étaient cuivrés.
« J'ai le pouvoir !» déclara-t-il.
Sa voix fendit le ciel. La branche d'un arbre tout proche craqua et s'abattit lourdement.
« Libère-moi et je t'aiderai, je te le promets !»
Ses ailes l'emportèrent haut dans le ciel où il décrivit avec lenteur un cercle éblouissant. Sa longue queue de serpent fouettait l'air. La pluie se mit soudain à tomber à torrents. Malta se précipita dans les bras de Reyn et s'abrita tremblante sous son manteau. Il l'enlaça. Même dans l'ombre planante du dragon, il eut conscience de la tiédeur de sa peau à travers la chemise trempée. Dessous la cape, Malta plissa les yeux vers la créature.
« Qui es-tu ? »
s'écria-t-elle d'une voix forte.
« Que veux-tu ?»
Le dragon rejeta la tête en arrière et rugit de rire. Il passa près d'eux d'un vol majestueux et remonta dans le ciel.
« Qui je suis ? Me crois-tu assez stupide pour te faire cadeau de mon nom ? Non, tu ne me domineras pas ainsi. Quant à ce que je veux, un marché. Ma liberté en échange de ce navire dont tu as parlé. Et si ton père est encore vivant, de sa vie. Qu'en dis-tu ? C'est simple, non ? « Une vie pour une vie !»
Malta regarda Reyn. « Il est réel ? Il peut nous aider ?»
Reyn leva les yeux vers le dragon. Il battait lourdement des ailes en s'élevant dans le ciel déchiré par l'orage. Il montait toujours, diminuant avec la distance. Il brillait comme une étoile sur les nuages gris fer.
« Il est réel, mais il ne peut pas nous aider !»
Et pourquoi pas ? Il est immense, il vole. Ne pourrait-il simplement aller à l'endroit où se trouve le navire et...
Et quoi ? Le détruire pour tuer les pirates ? Ce serait possible si tu pensais qu'il serait sage d'agir ainsi. Ce serait possible s'il était vraiment libre, mais il ne l'est pas. Il se montre à nous dans ce rêve comme il s'imagine qu'il pourrait être.
Comment est-il en réalité ?
Reyn comprit brusquement qu'il avait effleuré un sujet dangereux. « Il est prisonnier, loin sous la terre, où personne ne peut le libérer. » Il lui prit le bras et l'entraîna dans le sentier, où il avait fait naître une solide maisonnette. Il ouvrit la porte et Malta se précipita à l'intérieur avec gratitude. Il la suivit et referma derrière eux. Un petit feu illuminait la pièce toute simple. Malta rassembla ses cheveux et les essora. Elle se tourna vers lui, encore étincelante de gouttes de pluie. La lueur des flammes dansait dans ses yeux.
« Comment est-il prisonnier ? »
interrogea-t-elle.
« Que faudrait-il faire pour le délivrer ?»
Il décida de lui en dire juste assez pour rester honnête. « Il y a longtemps, il s'est passé quelque chose. Nous ne savons pas exactement quoi. Une cité entière a été profondément ensevelie sous la terre. C'était il y a si longtemps que les arbres ont pris racine au-dessus. Le dragon se trouve dans une salle au cœur de la cité ensevelie. Il n'y a aucun moyen de le délivrer, » déclara-t-il sur un ton sans réplique. Malta, butée, ne parut pas convaincue. Il secoua la tête. « Ce n'est pas ce rêve-là que j'imaginais partager avec toi. »
« On ne peut pas le sortir de là ? Comment se fait-il qu'il soit encore vivant s'il est enterré si profondément ?»
le questionna-t-elle, les yeux plissés.
« Comment sais-tu qu'il se trouve là ? Reine, tu me caches quelque chose !»
Il se redressa et tint bon. « Malta, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas te confier. Je ne te demanderai pas de trahir les secrets des marchands de Terrilleville. Tu dois me faire confiance et croire que je t'ai dit tout ce que je pouvais décemment te révéler. » Il croisa les bras. Elle le dévisagea un moment, puis baissa les yeux. Elle déclara enfin, sur un ton assourdi,
« Ne m'en veux pas. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je te demandais. »
Puis elle ajouta d'une voix de gorge,
« J'attends avec impatience le jour où nous n'aurons plus de secrets l'un pour l'autre. »
Une bourrasque de vent secoua les murs de la maisonnette. Rain soupçonna que c'était le dragon qui volait au-dessus d'eux.
« Délivre-moi !»
Son appel sauvage leur parvint du haut du ciel.
« Délivre-moi !»
Les yeux de Malta s'élargirent. Une seconde vague fouetta la cabane, agita les volets, et la jeune fille se jeta dans les bras de Rain. Il la tint serrée et la sentit trembler. Elle lui arrivait au menton. Il caressa ses cheveux humides. Elle leva le visage et il plongea dans son regard sans fond.
« Ce n'est qu'un rêve, » affirma-t-il. « Rien ne peut te faire de mal ici. Rien n'est vraiment réel. »«
Cela paraît très réel, »
murmura-t-elle. Et il sentit sur ses joues la chaleur de son haleine.
« Vraiment ? » demanda-t-il étonné.
« Oui. »
Doucement, il approcha les lèvres. Elle n'évita pas son baiser. Le voile fin entre leurs bouches était rêche sans être désagréable. Elle l'enlaça maladroitement. La douceur de ce baiser persista tandis que le pouvoir du coffre à rêve déclinait et que Rain glissait dans un sommeil ordinaire.
« Viens me voir !»
Les mots de Malta lui parvinrent vaguement.
« Viens me voir à la pleine lune. »«
Je ne peux pas !»
s'écria-t-il, craignant qu'elle n'entende plus.
« Malta, je ne peux pas !»
Il s'éveilla en prononçant ces mots. L'avait-elle perçu ? Il ferma les yeux et essaya de replonger dans le sommeil et le rêve partagé.
« Malta, je ne peux pas te voir. Je ne peux pas. »
« C'est ce que tu dis à toutes les créatures féminines ?»
Quelque part, un rire retentit, malicieux. Les griffes se rétractèrent sans force sur le bois sorcier dur comme fer.
« Ne te tracasse pas, Rain. Tu ne peux pas aller la voir. Mais moi, si. »